Utopod 044, 25 septembre 2010, le zombie du frère de Sylvie Denis. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Utopod. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une nouvelle de Sylvie Denis, le zombie du frère. Elle figure au sommaire de Pouvoir et vie, acte de l'Université européenne d'été de Nice, juillet 2003, un ouvrage collectif publié en 2004 sous la direction de Paul-Antoine Miquel et Cyprien Mihaly. Le texte a ensuite été repris dans le recueil Pèlerinage, paru en 2009 aux éditions ActuSF. Sylvie Denis est née en 1963. Considérée comme une figure centrale de la SF francophone contemporaine, elle a tour à tour été nouvelliste, romancière, anthologiste, traductrice, critique et rédactrice en chef. Elle publie ses premières nouvelles à la fin des années 80, puis un premier roman en 97. Dans ses récits, elle explore avec bonheur l'impact des nouvelles technologies sur les sociétés humaines. Elle a remporté les prix Solaris, Reni Aîné et Julia Verlanger. On la connaît aussi comme cofondatrice de la cultissime revue Cyber Dreams. Sylvie habite à Cognac, en France, où elle se consacre à l'écriture, à la traduction, au dessin, au collage et à toutes sortes de bidouillages numériques. Elle travaille actuellement sur la suite de son roman « La saison des singes ». La lectrice du jour est Charlotte Raymondin, qui a de maintes fois prêté sa voix et son talent à l'émission. L'ingénieur du son est Sylvain Demière, dont les collaborations avec Utopod sont aussi nombreuses que les grains de sable sur Tatooine. Et maintenant, sexe, drogue et rock'n'roll, ou presque, calibrez votre identité et place à la littérature.
Le zombie du frère, de Sylvie Denis. Ils sont venus le voir. 10 ans de scène et l'étonnement est encore là. Fleur d'émerveillement qui se déploie, vivante et belle, et qui, il le sait, jamais ne se flétrira. Ils sont venus de partout sur la planète. Des villes, des vallées et des plateaux, des ports, des côtes et des deltas, ils sont venus le voir. Lui, Zane, chanteur et musicien, lui et personne d'autre. Et, songe-t-il avec un sourire torve, ils n'ont pas fait toute cette route pour rien. Le concert est sur le point de commencer. Il les observe depuis un bureau vide, perché en haut d'une tour de contrôle. Les robots de la mise au corps ont bâti la salle de concert et le complexe qui l'entoure à une telle vitesse que le chanteur et son entourage ont eu l'impression de regarder un documentaire sur une nouvelle espèce de fourmi passée en vitesse rapide. C'est de ce même bureau qu'il les a vus arriver. Les couples en jeep et en moto, les groupes et les tribus en bus et en voiture, les solitaires à vélo, en roller ou à pied. Ils soupirent. La foule entoure l'amphithéâtre. Il entre en scène dans 2 heures et ils sont déjà debout devant les portes, bien que les sièges soient numérotés et que personne n'ait le droit de franchir les frontières de l'émirat sans être muni d'un ticket. Il regarde sa montre. Oui. Il devrait être dans la salle de préparation depuis 5 bonnes minutes. Cheryl et Alan, ses assistants, doivent déjà trépigner d'impatience et Mike Moreau, le secrétaire de son manager, doit le chercher dans tous les recoins de la gigantesque structure. Il ne bouge pas. 5 autres minutes s'écoulent avant que Mike fasse irruption dans le bureau, téléphone en main, sourcils froncés et cheveux en bataille. Il ne cesse de passer les doigts dedans quand il est inquiet. « Zane !» s'exclame-t-il. « Qu'est-ce que tu fabriques? Je te cherche partout. » « Je regarde, » répond le musicien. « Que veux-tu que je fasse d'autre ?» Mike ne répond pas et s'immobilise. Il pense que son idiot chanteur est encore une fois obsédé par son caprice de gosse, descendre de la tour, sortir des coulisses et aller se mêler à ses fans comme un politicien en campagne. « Allez, viens !» lâche le secrétaire. « Tout est prêt !» On n'attend plus que toi. » Et il pense, « C'est exactement ce que tu veux, alors arrête de jouer les divas et ramène-toi. » Zane soupire. Il se détourne de la baie vitrée et suit le secrétaire. Au fond, il a toujours été un gentil garçon. Jusqu'à aujourd'hui. Tandis qu'il progresse dans les corridors revêtus de moquettes auto-nettoyantes, encore un produit mis au corps, il laisse Mike prendre de l'avance. Le secrétaire parle dans son portable et ne regarde pas derrière lui. Zane en profite pour pousser une porte et s'élancer dans l'escalier de secours. Il s'arrête sur les marches de métal pour sentir le vent et écouter le murmure de la foule, comme le capitaine qui hume l'air de l'océan depuis la proue de son navire avant de mettre les voiles. Mike et les autres se trompent. Il a eu envie d'aller voir les fans, c'est vrai, mais c'était il y a longtemps. Et il s'est bien vite aperçu que c'était impossible. Pas dans des conditions normales, en tout cas, pas comme s'il pouvait encore se promener dans la rue sans qu'une foule se rassemble aussitôt pour vérifier la réalité de son existence. Il y a belle lurette qu'il a laissé tomber l'idée. Non, ce n'est pas pour ça qu'il scrute le public. La vraie raison, ni Mike, ni Cheryl, ni Alan, en fait, ne la connaît. Il monte les marches de l'étage suivant 4 à 4 et atteint le sommet de la tour quelques secondes avant l'ascenseur. Quand Mike en sort, Zan est déjà sur le palier. Il lui tire la langue. Mike ouvre la bouche pour l'enguirlander, mais il est trop tard. Il est déjà entré dans la salle de préparation où habilleuses et infirmiers l'attendent maintenant depuis près d'un quart d'heure. Ils ont voulu l'aider. Lui fournir les meilleures conditions de travail, les outils les plus performants, le personnel le plus qualifié. C'est ce qu'ils lui ont dit lorsqu'ils lui ont trouvé la diététicienne. À quoi cela lui servait-il d'avoir tout cet argent s'il ne pouvait même pas mettre les fringues qu'il achetait? Et après la diététicienne sont venus le coach, le professeur de yoga, les cours de développement personnel, de chant, de nage, de diction, de tout et de n'importe quoi, du moment que ça l'empêchait de disparaître en plein milieu des séances d'enregistrement pour se bourrer de pilules, du moment qu'il arrivait en scène sans avoir bu ou avalé quoi que ce soit. Le psychologue. « Que pense votre famille de votre carrière ?» lui avait-il demandé. « Je ne sais pas. Je ne leur ai pas parlé depuis que j'ai quitté la maison. »« Quel âge aviez-vous ?»« 14 ans. »« C'est jeune. »« Je songeais à partir depuis que je connaissais la vérité au sujet de ma naissance. »« Je suis sûre que vous voulez entendre la vérité au sujet de ma naissance. » Seulement si vous avez envie de m'en parler. Vous ai-je dit que mes parents étaient riches? Sans doute. Sans leur argent, je ne serais pas née. Mes parents appartiennent à cette catégorie de gens dont on voit le nom dans la rubrique économie des grands journaux. Mais peu importe. Il paraît que ma mère était ravie quand on lui a annoncé qu'elle attendait des jumeaux. Malheureusement, l'un d'entre eux est mort au cours de son 7e mois de grossesse. Tout s'était déroulé de manière absolument normale jusque-là, mais il est mort quand même. Personne n'a jamais compris ce qui s'était passé. Bien sûr, mes parents ont été extrêmement affectés. Mais ils avaient de l'argent et des relations. C'est comme ça que je suis née. Je suis le clone du jumeau mort. À cause des délais légaux, des tentatives ratées, de la grossesse elle-même, je suis née 3 ans après mon frère. Ne me regardez pas comme ça, s'il vous plaît. Mes parents m'ont dit comment j'avais été conçue dès que j'ai commencé à poser des questions, c'est-à-dire vers l'âge de 3 ans. Mais il m'a toujours été interdit d'en parler en dehors de la famille. Comment se fait-il qu'aucun journaliste n'a été mettre le nez dans cette histoire? Avait demandé le psychologue. C'est cela qui m'a surpris. Vous avez lu mes biographies? Ce sont des tissus de mensonges. Personne ne connaît mon vrai nom. Personne n'a jamais établi de lien avec mon frère. Le docteur avait froncé les sourcils, griffonné je ne sais quoi sur une feuille de papier blanc, puis il avait repris. J'imagine que c'est pour ça que vous ne vouliez pas enregistrer quoi que ce soit. Oui, la copie ne voulait pas produire de copie. Le frère de rechange voulait créer des chansons uniques. C'était puéril, je le sais. En réalité, Zan ne se souvient plus très bien de cette période de sa vie, de la façon dont tout a commencé. Petit à petit, en douceur, sans qu'il s'aperçoive vraiment de ce qui lui arrivait. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un de ses amis avait mis une vidéo de lui sur son site web. Un type de la maison de disques l'avait vu et était venu le trouver au club. Il lui avait demandé comment il travaillait, mais lorsque Zan lui avait dit qu'il n'écrivait pas ses textes, qu'il les improvisait toujours, l'homme ne l'avait pas cru. Typique. Agacé, le chanteur avait répondu qu'il n'avait qu'à l'enregistrer pour voir. Et à sa grande surprise, Mike était revenu avec des techniciens et du matériel. À partir de là, ses souvenirs se brouillaient. Et il y avait aussi eu un CD, des concerts et des performances, des émissions de radio et de télé, des interviews sur le web. Peu importait. Il avait fini par signer un contrat. Ils avaient enregistré ses concerts et les avaient mis en ligne sur un site où les gens devaient payer s'ils ne voulaient pas que les chansons s'évanouissent au bout d'une semaine. En quelques mois, ou peut-être quelques semaines, il gagnait tellement d'argent qu'il s'était cru obligé d'en donner à des organisations caritatives, rien que pour ne pas se sentir trop coupable. Et c'en avait été fini de sa période improvisée. Vous n'avez pas été créé pour remplacer votre frère, vous avez été créé pour... Assis dans son fauteuil phytoforme TM, le psychologue avait hésité. Comme s'il réalisait à quel point ce qu'il allait dire était épouvantable. Il était temps. Pour compenser votre propre mort, avait-il conclu. Il l'avait regardé, encore étonné de ce qui venait de sortir de sa bouche. Zan avait été assez magnanime pour ne pas lui rire au nez. « Oui, c'est ce que mes parents m'ont dit, que je devais être reconnaissant, qu'ils m'avaient sauvé de l'oubli. Reconnaissant de quoi? Si je n'avais pas vu le jour, je n'aurais jamais pu leur reprocher quoi que ce soit. Mais là, telles que les choses se présentaient, je leur en voulais. Mon frère me détestait et je le lui rendais bien. Pourquoi? Parce que j'étais son petit frère pourri gâté. Parce qu'il avait cru qu'il était unique et parce que je lui avais fait comprendre qu'il ne l'était pas. Parce que, bien que nous ayons le même patrimoine génétique, j'étais un enfant précoce et pas lui. Je ne sais pas. Je m'en fiche. Et pourquoi êtes-vous parti? Parce que j'ai soudain compris que si je ne répondais pas aux attentes de mes parents, qui n'avaient rien à voir avec l'art sous quelque forme que ce soit, ils pourraient recommencer, engendrer un autre clone. Alors pourquoi perdre mon temps à essayer vainement de leur faire plaisir? Pourquoi ne pas faire ce qui me plaisait à moi? De la musique. Quoi d'autre? Le psychologue avait souri, mais Zan ne croit pas qu'il l'ait jamais vraiment compris. Peu importe. Il aimait bien aller le voir, à l'époque. Juste parce qu'il prenait la peine de l'écouter. Il se déshabille, enlève les baskets design, les jeans de styliste, le pantalon en cuir et le t-shirt haute couture. Cheryl et Alan le regardent, muets et attentifs. Il a l'impression d'être chez le docteur. Il se souvient des débuts du costume, des geltrodes microscopiques de son intelli-shirt TM collé sur sa peau, mais invisible car prise dans le tissu du vêtement, lequel surveillait son rythme cardiaque et respiratoire, sa température, sa dépense énergétique, les contractions de ses muscles, le niveau de sucre dans son sang. Il était déjà une marionnette, mais à l'époque, il ne s'était rendu compte de rien. Il commençait une nouvelle vie, découvrait un nouvel univers et il croyait vraiment que tous ces gens lui voulaient du bien. Il pensait sincèrement qu'en devenant un artiste, il deviendrait lui-même, le seul et unique Zan, celui qu'il avait fait, pas celui que ses parents avaient dupliqué en utilisant le corps mort de son original. Est-ce qu'il va bien? A-t-il grossi? Non, certes pas. Ils peuvent compter ses côtes. Que fait la diététicienne? Son job. Ce n'est pas de sa faute s'il mange un repas sur deux. Il s'allonge sur la table, au milieu de la pièce. Le plastique froid le fait frissonner. La chair de poule hérisse son épiderme pâle. De la sueur poisse ses mains et son front. Il ferme les yeux et regarde le balai rouge sang qui tournoie à l'intérieur de ses paupières tandis que Cheryl et Alan, le dos tourné, préparent le costume. Comme souvent, il se demande ce qu'ils attendent. Ils étaient prêts quand il est entré et impatients d'en finir. Alors pourquoi attendre? Il n'en sait rien. Mais il joue la montre et ne s'approche de lui que lorsqu'ils sont absolument sûrs qu'il ne rouvrira pas les yeux. Le costume est une seconde peau. Et ce n'est pas une image. Ses collaborateurs ont essayé pendant des mois d'inclure les senseurs et les électrodes dans un tissu qui aurait belle allure une fois taillé pour en faire un habit de scène, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il leur fallait quelque chose de totalement différent. Un nouveau costume pour une nouvelle race de stars. ils sont entrés en contact avec un laboratoire de recherche médicale qui s'est révélé plus qu'heureux de tester une de ces peaux artificielles dans un contexte radicalement autre. Les bandelettes d'épiderme artificiel flottent dans des bacs de liquide stérile, pareil à des algues dans un aquarium. Cheryl se tourne. Elle en porte une à bout de bras avec des pinces. Elle la dépose sur la cuisse de Zan. C'est comme si elle posait une serviette trempée d'eau glacée sur sa peau tiède. Il frémit. Lorsqu'elle a entièrement recouvert ses deux jambes, elle prend un pinceau et étale de la colle liquide sur les jointures. C'est une substance gluante et froide qui met un temps infini à se réchauffer jusqu'à la température de son corps. Bande après bande, Cheryl couvre la totalité de son corps jusqu'à ce qu'il ait l'impression de ne plus être qu'une momie humide. Alors il ouvre les yeux, voit sa peau artificielle d'un rose grisâtre et a l'impression d'être un monstre vêtu d'un costume en peau d'escargot. Oui, c'est ça. Il se sent froid et gluant, comme une limace. Il est visqueux, gélatineux et pourtant hérissé d'électrodes et de senseurs reliés à des oscilloscopes. Ils l'ont transformé en cyber-escargot. Et ce n'est pas le pire. Le pire, c'est le casque, la dernière amélioration apportée au costume. Bien sûr, s'ils lui avaient expliqué ce qu'ils avaient l'intention de faire, ils n'auraient pas collaboré. Mais cette bande de sournois ne lui a rien dit. Et quand il a commencé à réfléchir, il était beaucoup trop tard pour revenir en arrière. Pour autant qu'il se rappelle, ça a commencé avec les vidéos. Ils les lui ont fait étudier après chaque concert, comme un joueur de foot après chaque match. « Regarde ce geste, » disait-il. « Vois comme ils aiment. » « Et cette chemise, où est-ce que tu as acheté cette chemise ?»«
Je ne l'ai pas achetée, je l'ai faite, » avait répondu Zan.
« Sur le net. » Tu copies-colles les motifs et la boîte les imprime et t'envoie le produit fini. Et où est-elle à présent, cette chemise? Pourquoi est-ce que tu ne la portes plus? Elle passe super bien à la télé.
Parce que je l'ai mise à la poubelle à la fin du concert, elle pue à la sueur. Mais ne vous en faites pas, je vous en ferai une autre. Sauf qu'ils n'en avaient pas eu besoin. Ils avaient contacté l'entreprise et avaient commandé autant de chemises qu'ils avaient de concerts prévus dans l'année.
Et puis quelqu'un a parlé de scanner d'IRM. C'est Mike qui lui a expliqué que l'imagerie médicale avait fait des progrès extraordinaires au cours des 25 dernières années. Zan l'a écouté poliment. Mike, qui venait probablement de l'apprendre, croyait sans doute qu'il ignorait que l'imagerie par résonance magnétique avait été remplacée par l'imagerie quantique. Cette technologie permettait, grâce à des impulsions radio particulières, de créer un lien quantique entre des molécules et de faire varier la distance sur laquelle ce lien s'établissait. La cohérence quantique ne pouvant s'établir qu'entre des noyaux situés exactement dans le même environnement, il était devenu possible d'examiner des molécules voisines de quelques millionièmes de millimètre et, par exemple, de déterminer les frontières exactes d'une tumeur ou la concentration exacte d'oxygène dans les tissus. Mysocorp possédait des laboratoires d'imagerie médicale, dans lesquels des chercheurs travaillaient sur le cancer, mais aussi sur le fonctionnement du cerveau. En gros, leur job consistait à photographier des cerveaux en action et à tenter d'en tirer des conclusions dans des domaines aussi variés que l'apprentissage des langues, la psychopathologie, la psychiatrie ou la neurologie. Ils ont enregistré son cerveau pendant qu'il chantait et ça a produit de jolies images en couleur montrant quelle partie de son cortex il utilisait ou pas.
« D'accord, » a dit Zan au type en blouse blanche. « C'est comme ça que ça marche. Et alors ?»«
Alors ?» a dit le type, tandis que Mike le regardait d'un air satisfait. « Nous allons vous projeter ces images lors de vos prochaines répétitions, et nous allons observer à nouveau l'état quantique de votre cerveau. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'essayer de reproduire l'image projetée. »
Donc, au cours de la répétition suivante, tout ce qu'il a eu à faire, c'est essayer de faire briller ses neurones en jaune et en rouge, comme sur la photo. Et bingo, ils n'ont pas eu besoin de faire trop de prises et il a pu repartir s'acheter des fringues. S'il lui avait proposé d'étudier son cerveau pendant qu'il écrivait ou composait, il aurait refusé. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils s'y sont pris. Ils lui ont juste demandé s'il pouvait lui coller à nouveau des électrodes sur la tête pendant qu'il restait assis dans cette charmante et confortable petite pièce à faire tout ce qu'il voulait pendant quelques heures. Et il l'a fait. Ce qu'il sait faire, quoi d'autre? Il a gribouillé et lu, découpé des morceaux de papier et de tissu, bidouillé sur l'ordinateur, joué de la guitare, du piano, gribouillé à nouveau, chanté, mangé, bu, pissé. Ils ne lui ont pas demandé de baiser, mais c'est sans doute parce qu'ils ont eu peur qu'il se doute de quelque chose. Et un jour, Mike Morrow lui a dit qu'ils avaient un nouveau logiciel à essayer, quelque chose que le labo avait inventé et qu'ils avaient envie de tester sur lui. Comme par hasard. « Assieds-toi, » lui a-t-on dit. « Mets les électrodes sur tes tempes. C'est froid et collant, ne t'inquiète pas, ça va passer. » « Bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» a demandé Zane. « Tu écris, tu composes, tu crées. » « Je ne fais pas ça sur commande, » a-t-il rétorqué. « Ah, tu vois les dessins sur l'écran ? Eh bien, essaie juste de modifier les images d'à côté de manière à ce qu'elles soient exactement les mêmes. Il paraît que ça marche pour les gosses dyslexiques. On leur apprend à lire en leur faisant imiter l'activité du cerveau de gamins qui n'ont pas de problème. » Alors il a essayé. Et ça a marché. Et tout le monde a été content, lui parce que tout à coup écrire était devenu facile, et eux parce que désormais ils savaient qu'à compter de ce moment, il écrirait les mêmes mélodies tiroir-caisse encore et encore et encore. Jusqu'au jour où quelqu'un, tout là-haut, au sommet de l'organigramme de la multinationale dont il dépend, a décrété que réduire sa créativité à l'imitation d'un écran montrant son cerveau en train de penser ne suffisait pas. Quelqu'un a suggéré que ce serait une bonne idée de lui fournir une image de son cerveau au travail pendant les concerts, de manière à ce qu'il puisse l'utiliser comme une sorte d'auto-metteur en scène. Alors, ils ont transformé le complexe scénographique en laboratoire d'imagerie quantique et ils lui ont coupé les cheveux. À présent, Alan colle une douzaine d'électrodes sur son crâne nu. Des larmes de colle glacée roulent le long de ses tempes. Il met la perruque. Maintenant, il a une chevelure de fil lumineux, une crinière de fibre optique dont il peut changer la couleur grâce à la commande visuelle qui lui permet aussi de contrôler une partie de la scène. De la technologie de pointe, qu'il doit régler avec précision en compagnie des techniciens et des musiciens avant chaque concert. Il se lève, fait signe à Cheryl et à Alan de le précéder dans le couloir qui mène à l'ascenseur. Au dernier moment, il prend l'escalier de secours. Il les entend s'entasser avec Mike dans l'ascenseur en râlant. C'est un jeu stupide et il le sait, mais ça l'amuse. Et ces derniers temps, plus grand-chose ne le fait rire. Alors il en profite. Même aujourd'hui. Il descend l'escalier lentement, en prenant bien le temps de s'arrêter à chaque étage pour observer son public. Ils ont commencé à entrer dans l'amphithéâtre. Il se dit que peut-être certains d'entre eux vont penser à lever les yeux. Au fur et à mesure qu'il descend, cette pensée occupe de plus en plus de place dans son esprit et chasse toutes les autres. « Regardez, je suis là. Levez la tête. Regardez-moi. Regarde-moi. Je n'arrive pas à croire que vous ne soyez jamais venu me voir, pas après toutes ces années, pas après qu'il fût devenu impossible d'ignorer qui je suis, ce que je fais. N'importe quels autres parents seraient venus, même sans invitation, même sans billet spécial. N'importe quels autres parents, n'importe quel autre frère, au moins une fois. Mais si quelqu'un lève les yeux, c'est un type comme les autres, qui le voit, de bien plus près, bien plus distinctement qu'il ne le verra lorsqu'il sera sur scène, et qui s'empresse de le dire à ses amis moins chanceux qui ne le croient pas. Lorsqu'il arrive enfin dans les coulisses, le costume n'est plus froid. Les serviettes mouillées se sont changées en soie, légères, précieuses et caressantes. Il n'est plus une limace, il est un oiseau au plumage doré, un guerrier en armure, un ange qui déploie ses ailes. Il atteint la scène avant la foule de parasites qui parviennent toujours à se glisser dans les coulisses et serrent la main aux musiciens. Ensemble, ils vérifient que tout va bien. Tout est en place. Les éléments du décor bougent et se positionnent au millimètre près. Les lumières sont au point. La micro-caméra qui pend devant son œil droit enregistre ses mouvements et les transforme en ordre transmis au laser. Ça va être un sacré concert. Il ne leur a pas dit ce qu'il pensait de leur nouveau système. Personne ne le lui a demandé, de toute façon. Les rats et les cobayes ne sont pas censés avoir d'opinion, hein? Il a murmuré quelques mots d'approbation et a commencé à réfléchir à un moyen de sortir de l'impasse dans laquelle il s'était fourré. Bien sûr, il ne se rendait pas compte que c'était une impasse. Pour eux, c'était juste un moyen de gagner du temps et de l'argent. De donner de meilleurs concerts, durant lesquels Zan serait inévitablement excellent, toujours plus proche du sommet de son art. « Tu n'auras plus à attendre d'être d'humeur à écrire, » disait Alan. « Tu pourras composer partout pendant les tournées. Plus besoin de trouver le bon endroit ou de te livrer à tous ces rituels puérils. Colle-toi les électrodes sur la tête, regarde les écrans et vas-y. » « Oui. » À quoi bon toutes ces incertitudes? Ils ignoraient qu'il aimait avoir la divine surprise d'entendre un verre surgir de nulle part tandis qu'il marchait dans une rue de New York, ou alors qu'il était assis à une terrasse de café à Paris, en train de visiter un musée en Italie ou de nager dans la piscine de sa maison des Caraïbes. Personne ne s'était soucié de savoir s'il aimait entendre la musique éclater dans son esprit au beau milieu d'une conversation, pendant qu'il regardait un film, ou en pleine nuit, alors qu'il était debout à poil devant la baie vitrée d'un hôtel de Hong Kong. Ils pensaient tout connaître de lui parce qu'ils avaient vu son cerveau produire de l'art sur leurs écrans. Mais que savaient-ils de ce que ça faisait vraiment d'avoir ce cerveau-là? Tout ce qu'ils voulaient, c'était s'assurer que Zan irait aux émissions de télé et de radio, qu'il produirait un album par an et qu'il ne disparaîtrait pas au milieu d'une tournée parce qu'il avait eu une nouvelle idée de format de chanson. Il était une star internationale, après tout. Comme ses parents, ces gens-là voulaient qu'il se copie lui-même jusqu'à ce que mort s'en suive. Et, se dit Zan, c'est exactement ce qui va se produire. Je vais incarner le mythe, leur donner un martyr de plus à adorer. N'est-ce pas gentil de ma part? Sauf que je n'ai pas le choix, c'est la seule façon de m'en sortir. Le concert touche à sa fin. Zan a chanté toutes ses chansons, et il y a eu deux rappels. Mike lui fait signe de se dépêcher de lancer le grand final. D'accord, c'est vous qui l'aurez voulu. Il indique aux musiciens qu'ils peuvent commencer le morceau. Il n'entame pas la chanson tout de suite. Il observe la foule, qui n'a pas encore reconnu le titre en raison d'une longue intro inédite. Des projecteurs ont été allumés, qui lui permettent de distinguer des visages dans ce grand trou noir semé d'éclats de lumière, reflets sur des lunettes, des jumelles, des appareils photo et des caméras vidéo, et, en dépit du fait que ce soit interdit, flammes des briquets. Le murmure grondant qui monte du public lui rappelle la mer un jour de grande marée. Ses mouvements, ceux d'un banc de poissons. Mais ils ne sont pas là. Ils ne sont jamais là. Tant pis pour eux. Ils verront tout à la télé comme les autres. Il sait qu'ils n'aimeront pas ça. Il prend son temps. Ça énerve Mike, les musiciens, les techniciens, tout le monde. Tous ceux qui attendent la fin du concert pour manger un morceau et aller se coucher, leur journée de travail enfin terminée. Il s'en fiche. Ce qu'il fait est important. Il se doit de commencer comme il faut. Il finit néanmoins par se décider. Il ferme la paupière gauche et là-bas, sur la gauche de l'amphithéâtre, un point de lumière apparaît, grossit, s'étire. Il devient un fil doré qui grimpe dans le ciel. Zan attend que les spectateurs du fond l'aient remarqué avant de déclencher le deuxième à une douzaine de mètres du premier. Quelques minutes plus tard, plusieurs fils d'or montent vers les étoiles et plus un seul spectateur ne regarde la scène. C'est le moment de donner le signal. Chaque fil se divise en deux et commence à s'étirer au-dessus de la multitude. Ils ont reconnu la chanson à présent. Son titre est Diamond et elle raconte l'histoire d'une jeune fille que son père, un sorcier, retient prisonnière à l'intérieur d'une pierre précieuse. Les lasers enferment les spectateurs à l'intérieur d'un diamant géant dont les arêtes ont la couleur de l'or et dont les facettes sont le ciel étoilé. Il les entend crier, émerveiller et sourit, puis se rappelle que les senseurs d'Alan enregistrent tout ce qui se passe dans son cerveau et se dit qu'il est temps. Il accélère les lasers. Il a une dernière pensée pour Mike Morrow, Alan, Cheryl et les musiciens. Ils ont fait du bon travail ensemble. Mais il n'est pas très inquiet pour eux. Grâce aux enregistrements, ils pourront produire du ZAN pendant les 50 prochaines années. Tout ce qu'ils auront à faire, c'est fourrer une poupée animatronique avec les données à la mettre sur scène. Ils n'ont pas besoin de lui. Personne n'a besoin de lui. Il a joué son rôle jusqu'au bout. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à quitter la scène. Même s'il prenait sa retraite, s'il cessait d'être ZAN, qu'est-ce que cela changerait? Il ne sait pas qui est vraiment ZAN. Aussi doit-il se contenter d'être ce que les spectateurs voient, de jouer le rôle qu'ils lui ont donné à jouer. Être sur scène, miroir de leur peur et de leur désir. Les lasers se sont rejoints au-dessus de la scène, tels des flèches pointées sur lui. En théorie, l'installation est parfaitement sûre, protégée par des doubles et triples systèmes de sécurité. Il a dû payer une somme rondelette pour obtenir le logiciel qu'il s'apprête à utiliser. Il est temps. Il chante les derniers vers de la chanson qui parle d'un diamant et d'une prison. Il sait que demain, les journalistes parleront de tragédie et de destin. Ils accuseront la drogue, le pouvoir et l'argent, mais ils n'empêcheront pas les fans d'acheter les CD, les t-shirts et la vidéo du concert. La même société qui les a privés des moyens de penser et de s'exprimer par eux-mêmes leur fournit une compensation moyennant finances. Ils écouteront les chansons qui traduisent leurs états d'âme et les aident à vivre avec. Sans le savoir, ils seront satisfaits d'être tristes et ils consommeront sa mort en pleurant. Pendant quelques secondes, les lasers brillent un peu plus intensément. Une boule de feu apparaît et commence à s'étirer. Un fil doré le frappe au beau milieu de la poitrine. Il tombe à genoux. Au même moment, les projecteurs s'allument. Il voit les visages des spectateurs des premiers rangs. Aucun n'est son père ou sa mère, ni son frère jumeau. Il ne sait pas, ne veut pas savoir, si leurs cris sont de douleur ou de plaisir.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous fin octobre pour un texte très dickien de Roland C. Wagner. D'ici là, ne lâchez pas vos oreillettes. Bye bye!